Bienvenue sur nos ondes locales. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle chronique du passé. Bonjour Michel.
Bonjour Gilliane. Bonjour à vous tous, fidèles auditeurs. Quel sujet abordons-nous?
Le mois dernier, notre chronique du passé a retracé le sort des prisonniers de la guerre 1939-1945, originaires de l'Ain. Aujourd'hui, nous évoquons une catégorie d'hommes qui sont rentrés d'Allemagne au printemps de 1945. Ce sont les déportés du travail.
Nous traitons ce sujet après avoir écouté « J'attendrai », interprété par Rina Ketty.
De la guerre de 1939-1945, des hommes ont été contraints de partir travailler en Allemagne au titre du service du travail obligatoire, le STO. Comment en est-on arrivé à cette mesure?
Au cours de sa rencontre avec Hitler à Montoire le 24 octobre, le maréchal Pétain s'est engagé dans la voie de la collaboration. Aussitôt, lui et son entourage ont incité des ouvriers à aller travailler en Allemagne.
Mais les volontaires n'ont pas été nombreux, malgré des salaires attractifs.
Les Français se sont adaptés à la situation, tant en zone occupée qu'en zone dite libre. Ils ne voyaient guère d'intérêt à s'expatrier, à quitter leur foyer. Avec ces hommes mobilisés sur le front, l'Allemagne a besoin de main-d'œuvre pour faire fonctionner son économie.
Les prisonniers capturés sur le front de l'Est ne suffisent pas. Il faut trouver d'autres ressources dans les pays occupés. L'amiral Darlan, à la tête du gouvernement français, était un partisan convaincu de la collaboration. Pétain le remplace au gouvernement par Pierre Laval le 18 avril 1942. Laval est un anticommuniste et il pense que l'Allemagne nazie sera le rempart et que la France doit être à ses côtés pour construire une future Europe libéré de ce fléau. Que fait-il dans ce but?
L'État français n'a rien obtenu en faveur du retour des prisonniers, à part le rapatriement des blessés et des malades. Alors, Laval vise un double but: répondre à une aspiration de l'opinion publique française et satisfaire les demandes allemandes. Il met en place la relève. Pour 3 ouvriers partant en Allemagne, un prisonnier reviendra de captivité. La loi est votée le 4 septembre 1942 et elle est contresignée par le maréchal Pétain.
Et cette nouvelle disposition n'a guère plus de succès, même avec des ouvriers désignés arbitrairement comme volontaires au sein des entreprises. Il faut aller plus loin, mais le contexte international a changé. Les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord le 8 novembre 1942. En réaction, les Allemands ont franchi la ligne de démarcation pour s'installer sur la côte méditerranéenne. De fait, la zone libre n'existe plus.
Ajoutons un autre fait majeur. Le 31 janvier 1943, l'armée de von Paulus capitule après l'échec de l'assaut contre Stalingrad en URSS. C'est la première défaite allemande, un espoir pour les Alliés. juste un fait de guerre pour les partisans de l'Allemagne qui restent convaincus de la victoire finale. Cela exige néanmoins de nouveaux efforts.
Alors, Pierre Laval met en place le service du travail obligatoire pour les hommes de toute profession, né dans un premier temps, durant les années 1920 à 1922. Tous ne partiront pas, mais les hommes désignés ne pourront se soustraire à l'obligation d'aller travailler en Allemagne. Pierre Laval fait voter la loi le 16 février 1943 et le journal officiel la publie dès le lendemain, sans la signature du maréchal Pétain.
Le recensement des hommes est lancé auprès des mairies. Les premières désignations tombent avec une convocation pour un examen médical. Les premiers départs interviennent à la mi-mars et une manifestation de protestation se déroule devant le monument aux morts de Bourg-en-Bresse le 15 mars.
Un départ massif avec environ 800 convocations est programmé pour le département le 22 mars avec un train spécial au départ de Bourg où aura lieu le regroupement. Michel, votre papa employé à la préfecture de l'Ain fait partie des hommes désignés. Avant d'évoquer son sort, nous allons parler des réactions à cet événement.
Il y a des manifestations dans les principales villes du département, à Bellegarde, Oyonnax, Tenay ou Saint-Rambert-en-Bugey. Partout, la population exprime sa désapprobation. Les hommes sont pris au dépourvu et certains refusent de partir. Ce sont des insoumis pour l'administration. D'autres font mine d'accepter et se dérobent au dernier moment, après l'accomplissement des démarches prévues. Ce sont des réfractaires.
Partir ou ne pas partir ? Obéir à la loi ou désobéir ? Le choix, un cas de conscience, n'est pas facile. À la campagne, où l'habitat est dispersé, se cacher n'est pas trop difficile et les tickets d'alimentation sont parfois nécessaires, mais non indispensables. Par contre, en ville, c'est plus difficile. Où se nourrir sans les tickets ? Le marché noir est prohibitif et dangereux.
Les forces répressives sont beaucoup plus nombreuses en ville et pour faciliter les départs, on fait courir la rumeur de représailles contre les proches des récalcitrants. En outre, la milice, de sinistre mémoire, se met en place et rien n'identifie un milicien parmi son entourage. Il se crée un climat d'anxiété et certains préfèrent partir. Les partants ne sont nullement pro-allemands ou vichistes. Ils acceptent seulement une décision prise par d'autres pour eux.
C'est à ce moment-là que se créent des camps du maquis pour accueillir insoumis et réfractaires. Et le mouvement va s'amplifier. Revenons à votre papa et à son voyage vers l'Allemagne. Connaît-il sa destination ?
Nullement. Il a répondu à sa convocation et il est en gare de Bourg-en-Bresse le 22 mars 1943. Le départ est prévu à 20h, mais une manifestation a lieu devant la gare, les forces de l'ordre interviennent et le train s'ébranle enfin. Les premiers kilomètres sont fortement perturbés. Pour éviter la répétition des incidents, le train circule avec le seul freinage de la locomotive.
Le train atteint Dijon et le voyage se poursuit par Strasbourg. Il traverse l'Allemagne et, après 68 heures, votre papa se retrouve en Pologne envahie, près de Danzig, à Elbing, une ville industrielle à quelques kilomètres de la mer Baltique. C'est un employé, il est à l'aise avec l'écrit, il va beaucoup écrire et son témoignage en direct est précieux pour l'histoire.
En effet, il écrit sa première lettre depuis la gare de Dijon, quelques heures après avoir quitté sa Bresse. Avec le recul, nous pouvons dire en effet qu'il avait le souci, peut-être inconscient, de témoigner. Tout au long de son exil, il va envoyer de longues lettres ou des cartes de correspondance. À l'inverse des prisonniers évoqués le mois dernier, la correspondance n'est pas réglementée, tout au moins au début. Il se répète d'une lettre à l'autre car il a conscience, à cause de la distance et de la guerre, des courriers peuvent se perdre.
Sur place, on pourrait presque dire qu'il supporte assez bien son exil.
Pas tout à fait. Selon la formule populaire, il fait contre mauvaise fortune bon cœur, comme tous ses camarades. Et puis, il veille à rassurer ses parents. C'est vrai que parlant allemand, il se sent moins exilé que d'autres, mais au bout d'un seul mois, il exprime déjà bien son mal du pays.
Comment s'organiser pour tenter de supporter cette situation d'exil et de travail forcé ?
Il se crée vite une solidarité et bientôt de solides amitiés entre hommes du même pays, même avec des origines professionnelles différentes. Chacun apporte sa contribution et ses compétences personnelles pour mieux vivre la captivité et la promiscuité dans les baraquements qui servent d'habitation. Lui devient vite l'interprète pour ses camarades, un autre sera le cuisinier, et ainsi de suite. La captivité, car c'est bien une captivité, est ainsi mieux supportée par tous.
Lui est un employé, mais il est affecté à l'usine Shirao de construction et de réparation de matériel ferroviaire. Comme il n'a pas ses compétences, il commence par une phase d'apprentissage.
La situation est un peu particulière. L'Allemagne veut des ouvriers, mais Vichy pioche dans toutes les catégories professionnelles pour un semblant d'égalitarisme. L'Allemagne accepte cette politique, car l'apprentissage ne coûte guère. Mais toujours plus de main-d'œuvre est réclamée.
Quelles sont ses premières impressions ?
Les hommes s'adaptent à une nouvelle nourriture basée sur les pommes de terre à tous les repas et sans beaucoup de viande. Ils travaillent 11 heures, de jour ou de nuit, mais les contre-maîtres sont souvent conciliants. Les journées sont monotones. Heureusement, il y a les jeux de cartes et ils peuvent aller boire et manger dans les bistrots de la ville. Les dimanches, ils ne travaillent pas, mais ils ne sont pas nourris. Ils vont en ville, se distraient avec des séances de cinéma et terminent leur journée au restaurant autour d'une choucroute plus ou moins garnie. Ils sont payés et leur salaire leur permet de s'offrir ces petits plaisirs.
L'été 1943 offre quelques distractions, avec des baignades dans la mer Baltique et des passages dans les bistrots du port. Néanmoins, la correspondance avec les parents est importante.
Elle permet de maintenir un lien affectif, même si les lettres mettent de 12 jours à un mois pour parvenir à leur destination. Mes grands-parents envoient régulièrement des colis de victuailles à mon père, donnent le détail des agapes organisées en partageant avec les copains ce que chacun reçoit.
Et à ce propos, il y a des choses étonnantes.
En effet, mes grands-parents envoient des œufs frais et ils arrivent intacts en Prusse orientale, sauf un. De son côté, mon père expédie deux chopes à bière de la brasserie locale Brauerei Englisch Brunnen. Elles arrivent sans incident, malgré la distance et les manutentions. Nous les avons toujours.
Mais il n'a pas de permission et la situation se tend.
Durant un moment, il a espéré obtenir une permission de 15 jours pour rentrer en France. Mais ces permissions sont supprimées à l'été 1944. Le temps passe et bientôt de plus en plus d'avions survolent leur secteur. Mon père rassure ses parents, dit qu'il est informé des événements de Brest par des copains, puis la correspondance est interrompue à partir de la fin juillet 1944.
Nous savons néanmoins la suite de son histoire. Il a conscience de l'interruption des courriers et il note ses impressions sur un carnet à partir de janvier 1945. Les hommes vivent alors une période difficile dans un hiver particulièrement rigoureux, entre la neige et le verglas, et bientôt la fin de leur exil.
Les blindés russes entrent dans la ville d'Elbing le 23 janvier 1945 et ils espèrent être libérés par eux. Mais les Russes reculent. Les exilés se préparent à fuir vers l'ouest à pied. À cause des conditions hivernales, ils se confectionnent des traîneaux avec des dossiers de chaises. Peu après, les Allemands leur font creuser des tranchées anti-chars. Ils atteignent ensuite Danzig. Tout au long de ce parcours, ils sont entassés dans des cas de fortune et obligés de se nourrir par eux-mêmes en volant. Une nuit, ils sont bloqués dans une écurie avec des Allemands, des SS, qui partagent leurs provisions avec eux.
À Danzig, bombardés et en flammes, ils sont mitraillés par l'aviation russe. Le groupe quitte la ville le 25 mars, toujours pour creuser des tranchées. Lorsque l'artillerie russe tonne, ils se réfugient dans des abris de fortune. Mais un de leurs copains est tué. Le cauchemar cesse le 31 mars. Ils sont désormais prisonniers des Russes, mais pas au bout de leur peine.
31 mars 1945. Mon père a eu 23 ans la veille. L'offensive russe tourne à plein régime. Son objectif est Berlin, sans beaucoup de considération pour des prisonniers, même d'un pays allié. Pour une raison inconnue, ces STO prisonniers sont emmenés à Kalinine, en Russie, un séjour de plusieurs semaines, avant d'être rapatrié par voie de terre en traversant toute l'Europe dévastée. Mon père arrive à Saint-André-sur-Vieux-Jonc le 10 août 1945, alors que son retour n'était plus guère espéré. Il ne sait pas que son propre père est décédé depuis septembre 1944. D'autres STO arriveront dans l'Ain jusqu'au début de janvier 1946.
Voilà, brièvement relaté, l'épopée des STO et de votre papa. À partir de ces lettres, vous avez écrit un récit qui est publié sur le site des Chroniques de Bresse, avec des photographies émouvantes de votre papa. Nous terminons en remerciant Jimmy à la technique et nous donnons rendez-vous à nos auditeurs le mois prochain. Nous nous quittons sur une chanson de Maurice Chevalier, « C'est une fleur de Paris ». Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
L'épicier l'avait gardé dans son comptoir, le percepteur la conservait dans son tiroir. La fleur si belle de notre espoir, le pharmacien la dorlotait dans un bocal, l'ex-caporal en parlait à l'ex-général, car c'était elle, notre idéal. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge, avec l'espoir elle a fleuri, fleur de Paris. Fleur de chez nous, elle a fleuri de partout, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge, elle était vraiment avant tout fleur de chez nous.
Ba 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 ba